Bienvenue dans Fake Radio.
La radio vraie, mais pas trop.
Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nos envoyés spéciaux nous parlerons d'actualité, de sport, d'écologie, d'éducation, sans oublier le numérique.
Commençons tout de suite par l'actualité. Premier sujet brûlant, la guerre en Syrie. Je donne la parole à Elijah, notre envoyé spécial à Damas.
Jeudi dernier, sous les ordres de Donald Trump, les Américains ont lancé 5 missiles sur Damas, la capitale de la Syrie. Cet acte de guerre a été très mal pris par le président syrien, qui a tout de suite répliqué en envoyant des bombardiers sur New York. Les deux attaques ont fait plus de 60 000 morts à New York et 10 000 à Damas. Nous avons rencontré un rescapé syrien devenu aveugle suite au drame. Il nous a dit qu'il a entendu des explosions au loin, de plus en plus proches, qu'il en a vu une dans la rue d'en face. Il s'est couché pour se protéger, semble avoir perdu connaissance, et s'est réveillé aveugle et blessé superficiellement dans un camp de rescapés. Heureusement, l'UNICEF a pris en charge la protection des rescapés. Nous espérons que ce ne sera pas le début d'une nouvelle guerre. Selon les présidents européens, le président Trump n'a commis cet acte que par profit d'une nouvelle guerre.
Toujours dans l'actualité, Alexis nous parle d'une toute nouvelle loi inventée par notre cher président.
Macron a décidé de changer encore la limitation de vitesse. Après être passé de 90 à 80 km/h sur toutes les routes départementales et de 50 à 30 en ville, il a encore changé d'avis. Maintenant, nous serons obligés de rouler à plus de 120 km/h sur toutes les routes départementales et à plus de 90 km/h en ville. Pour les autoroutes, aucune limitation n'est fixée. Les automobilistes, inquiets, disent que les accidents vont augmenter, donc le taux de mortalité va augmenter. Les scientifiques de la clinique Eugène Marquis disent que les automobilistes sauront adapter leur vitesse aux dangers de la route, donc le taux de mortalité va diminuer de 12%. Mais qui croire? Les automobilistes inquiets ou les scientifiques trop éloignés de la réalité? Beaucoup de personnes pensent que notre cher président est devenu fou. D'autres pensent qu'il serait devenu un fou du volant.
Pauline, notre animatrice préférée, va maintenant nous faire frissonner avec ses histoires de martiens.
En effet, je vais vous parler de cette découverte étrange faite par le robot TK-713 sur Mars. Le lundi 1er janvier, le robot de la NASA TK-713 aurait retrouvé des particules qui seraient, d'après Charles Bolden, des particules très proches de l'espèce humaine. Elles auraient été retrouvées sur un gros bloc de roche où le robot recherchait des informations sur une potentielle espèce vivante sur Mars. Le séjour du robot a donc été prolongé pour confirmer les précédentes révélations. Mais hélas, aujourd'hui, le robot a disparu des radars de la NASA. Une équipe, donc, devrait être envoyée dans très peu de temps pour le récupérer. Cette disparition cause débat. Certains pensent que la NASA ment pour se glorifier de cette découverte. Eh oui, encore et toujours la théorie du complot. Et d'autres, que le robot s'est fait kidnapper par les martiens. Le mystère perdure.
Passons maintenant aux nouvelles technologies. Le numérique est partout et semble nous dépasser. Une enquête en région avec Océane.
Le collège de Bénévent-l'Abbaye utilise trop le numérique. Il n'y a plus assez d'électricité pour toute la Creuse. Les Creusois ne peuvent même plus s'éclairer la nuit sans que l'électricité ne manque à leur village. Ils ne peuvent pas s'informer par la télé ni prévenir leurs proches. Le collège de Bénévent-l'Abbaye est à l'origine de ce manque d'électricité. Le collège utilise trop les ordinateurs et les tablettes. Tous ces appareils chargent ou fonctionnent à l'électricité. Du coup, à force, cela puise dans les réserves de la Creuse. Les Creusois n'en peuvent plus de ce collège de malheur, comme ils le disent. Du coup, ils manifestent de tous les côtés. Ils vont sans doute se rendre à Bénévent dans les jours qui viennent pour bloquer le collège. Tous les étudiants de ce collège n'auront pas cours et devront soit rester chez eux ou se joindre à la manifestation accompagnés de leurs parents. Les professeurs feront sans doute partie de la manifestation. On attend un déblocage de la situation qui devient très problématique et une intervention du groupe Engie.
Et quand les mobiles deviennent dangereux, Malena a mené l'enquête.
En effet, d'après un spécialiste et des cancérologues, une nouvelle pathologie de cancer est apparue à cause de l'utilisation abusive des nouvelles technologies. Dans une cinquantaine d'années, nous allons tous être frappés par une maladie grave. Parmi les symptômes, on note une légère folie, des difficultés à parler et une perte importante de cheveux. On rapporte également que certains deviennent plus méchants qu'à l'habitude. Une certaine paranoïa se développe. Dans des cas plus rares, certains patients ont perdu la vue. Cette maladie est mortelle et à ce jour, il n'existe aucun remède. Ce fléau est causé par les ondes diffusées par les téléphones portables. Aussi que vous soyez un utilisateur chevronné ou pas, vous attraperez cette maladie. Pour ceux qui ne possèdent pas de téléphone, on parle de cancer passif, c'est-à-dire que vous développez cette maladie à cause des ondes répandues par les téléphones des autres. En bref, pour y échapper, il faudrait revenir à l'âge de pierre et supprimer toutes les technologies diffusant des ondes.
Malgré tout cela, on continue d'inventer de nouvelles machines, toujours plus performantes. Azad nous explique.
Eh oui, c'est la révolution dans le monde de l'informatique. Un nouvel ordinateur ultra performant mais tout aussi simple a été créé et subit actuellement des tests. Un processeur du nom de Tik Kwan vient d'être créé à l'université de Yale, aux États-Unis. Du jamais vu. Une machine de guerre, il est si rapide qu'il exécute de multiples tâches en même temps. Et comme il obéit à la voix et aux doigts, il est à la portée de tout le monde. Ce projet est soutenu financièrement par plusieurs organisations, entreprises et gouvernements en raison de l'importance de l'enjeu. C'est un marché qui pèserait au moins 3 milliards de dollars. Cet ordinateur ultra performant, ultra rapide, a néanmoins quelques faiblesses. Le problème majeur des ordinateurs Tik Kwan est leur fragilité. Les moindres perturbations extérieures telles que des vibrations ou des variations électriques peuvent faire rater les calculs et éteindre l'ordinateur. Il faut les maintenir à des températures glaciales, moins de 150 degrés Celsius. Autre léger défaut, le constructeur assure une autonomie de 3 minutes sur la batterie et une performance de 3 gigas sur le disque dur. Cet ordinateur se vendrait aux alentours de 12 000 dollars, soit environ 10 600 euros. Alors quand on parle de l'informatique à portée de tous, ce n'est sûrement pas à la portée de tous les porte-monnaies.
J'ai rien compris, mais allons nous aérer l'esprit en faisant du sport.
C'est vrai que tous ces chiffres donnent mal à la tête, mais le sport n'est pas épargné. Pas vrai, Mathilou ?
Eh oui, le sport brasse lui aussi beaucoup d'argent. Depuis la défaite du Real Madrid contre Ajax 6-1 à Santiago Bernabéu, le joueur du Real veulent quitter le club madrilène. La presse espagnole dit que le club sera au bord de la faillite d'ici 4 ans si ses joueurs phares, Benzema, Toni Kroos, Modric et les autres quittent le club. Le président du club, Florentino Pérez, se serait disputé avec le défenseur de l'équipe, Sergio Ramos. D'après la presse espagnole, il en serait presque venu aux mains. Le sujet de la dispute, la défaite, bien évidemment. D'après les rumeurs, le Real Madrid aurait subi une impressionnante défaite à cause de l'état de fatigue des joueurs. Malgré l'interdiction, les joueurs sous l'influence de Sergio Ramos sont sortis en boîte de nuit et ont été aperçus très alcoolisés dans les clubs branchés de la ville. On raconte également que l'ancien joueur star du club, Cristiano Ronaldo, qui a été transféré l'été dernier à la Juventus, veut attirer les joueurs dans sa nouvelle équipe. Les joueurs iront-ils jusqu'au bout de leur démarche ou feront-ils marche arrière?
De l'argent sale dans le sport, mais aussi des soucis de dopage dans le rugby. Explication de notre cher Maxime.
Eh oui, déjà 3 morts sur les terrains. Aujourd'hui, le rugby français est contraint de réagir. Après le décès de Romain Ntamack et de ses 2 jeunes coéquipiers, l'Association de la Sécurité Mondiale de Rugby décide de se pencher sur la mort de Romain. Jeune joueur de 18 ans, son décès serait dû à une crise cardiaque sous l'effet de stéroïdes. Après cela, une réunion exceptionnelle pour débattre sur les futures règles de sécurité aura lieu. Brett Gosper, directeur de World Rugby, nie ouvertement qu'aucun de ses joueurs n'ait eu recours à des stéroïdes. Suite à cela, l'Organisation du Rugby Mondial décide que l'usage de stupéfiants sera désormais obligatoire pour rendre les joueurs plus résistants, notamment lors des violents plaquages.
Dopage toujours, mais cette fois-ci, il touche les filles et le handball. Carla nous explique.
Les Bleus qui avaient manqué la médaille d'or contre les Russes aux Jeux de Rio vont pouvoir prendre leur revanche, mais pas grâce à leur unique talent, grâce à la triche et au dopage. En effet, les Françaises ont gagné 45-21 le 14 mars contre les Russes. Le match commençait mal pour les Françaises, qui se sont pris 10 buts d'avance, un écart qu'elles ont gardé jusqu'à la 38e minute, où l'explosion arriva. Les Françaises sont en effet revenues de la mi-temps prêtes à tout pour l'emporter. Elles débordaient d'énergie et ne manquaient aucune action. Elles ont remonté leur point de 18-45. C'est en regardant les enregistrements du match que les premiers soupçons sont apparus. Une enquête a été ouverte pour dopage et tricherie. L'entraîneur de l'équipe de France, Martin de Souza, est aujourd'hui en garde à vue, car il a été accusé d'avoir triché sur les points marqués par les Françaises et d'avoir donné des stupéfiants à ses joueuses. Les tests sanguins effectués sur les joueuses confirment les soupçons, mais elles auraient été droguées à leur insu. L'enquête se poursuit.
Le CSP en deuil. Candice est allée sur place.
François Perronnet, l'entraîneur du Limoges CSP, est décédé suite à un accident de voiture mercredi 15 janvier 2019. La voiture a été retrouvée dans un fossé. Les pompiers ont dû couper la voiture en deux pour pouvoir sortir son corps. L'inspecteur Jean-Marc Chauvin nous dit que ce n'est pas un accident criminel, car quelques jours plus tôt, il y aurait eu un accident de voiture sur cette même portion de route et de l'huile aurait donc été répandue. François Perronnet devait se rendre à Bellac pour signer un gros contrat qui aurait pu changer l'avenir du club. Les joueurs viennent de subir une grosse perte. Léo Esterman nous dit qu'il est triste pour leur entraîneur. Il comptait beaucoup. Quant à Bradley Wanamaker, il nous dit que François était très important à leurs yeux et que c'était comme un deuxième père. L'équipe du CSP va rendre hommage à son entraîneur lors de son prochain match face à Strasbourg. Une toile projetant le visage de François Perronnet va être installée dans les gymnases de Beaublanc. Nous ne savons pas qui sera candidat pour le remplacer. Des noms circulent mais rien n'est décidé.
Sport toujours, un nouveau record rapporté par Thibaut.
Jeudi dernier, le record de vitesse sur longueur a été battu, ce qui est absolument incroyable. Le record a été détenu par une vieille femme de 86 ans appelée Ginette Mortadel. Elle aurait parcouru 482 km. En 14 jours et 5 heures, sa vitesse moyenne aurait été de 29,64 km/h. Voulant comprendre comment cette femme aussi âgée pouvait battre les plus grands sportifs de haut niveau, une étude a été ouverte. Les scientifiques rapportent, pendant son parcours, Ginette Mortadel aurait fait un AVC. Pendant son accident, ses capacités sont démultipliées sous l'effet de la libération d'hormones provoquée par l'AVC, que le rythme de Ginette s'est accéléré et s'est maintenu au tel niveau. Bref, elle a eu beaucoup de chance de vivre le bon côté de l'AVC. La vieille femme est heureuse et fière d'avoir battu le nouveau record.
Sport encore. Clara s'est rendue au Sénégal pour nous parler de basket.
Le président du Sénégal, Macky Sall, avait proposé à l'académie de la NBA d'ouvrir leur premier centre de formation à Sali, ville située au sud de Dakar. La moitié de la population du Sénégal s'est inscrite pour faire les tests d'entrée, un pourcentage énorme. Par la suite, la NBA a décidé de refuser la proposition et de ne pas ouvrir ce centre de formation. Adam Silver, le président de la NBA, nous a dit qu'il ne pouvait pas donner suite à autant de candidatures parce que cela coûterait beaucoup trop d'argent à l'académie. Alors, la population a décidé de se mobiliser en organisant des manifestations un peu partout au Sénégal. Nous espérons que l'académie changera d'avis et que ce centre pourra ouvrir ses portes au mois d'août comme c'était prévu. C'est une affaire à suivre.
Quentin a découvert un nouveau talent caché au fin fond de la Creuse. Il nous raconte.
Le futur Lionel Messi a seulement 7 ans et il est en classe de ça. Il s'appelle Quentin et il est trop de haut foot. Comme quoi les Quentins sont très talentueux. Il fait partie du club de Bénévent-l'Abbaye en Creuse dans le Limousin en pleine campagne. Il a été repéré par un entraîneur de l'école de foot de Châteauroux. Grâce à ses nombreuses qualités, il intégrera cette école sportive l'année prochaine. Son pied droit, agile et rapide, jonque 424 fois. Il a de grandes chances à l'avenir d'être recruté par de grands clubs de foot. En attendant, il poursuit son petit bonhomme de chemin dans les clubs bénéventins pour le plus grand bonheur de ses copains et sous les yeux ébahis de ses parents.
Ce sont les légèretés. Le sport est taché par de graves attaques terroristes. Loris a enquêté dans le milieu du foot.
Vendredi 17 mars, au soir, avait lieu la rencontre tant attendue entre Barcelone et la Juventus de Turin. Deux équipes de piètre niveau, même Bénévent-les-Bas. Elles ont quand même un joueur de qualité. Ronaldo et Messi sont de grands buteurs. À la 62e minute, Ronaldo se dirigeait vers les buts adverses quand une bombe a explosé. Les joueurs surpris se sont arrêtés de jouer. Il y avait un individu sur le toit du stade avec une arme. Il a tiré sur Ronaldo et Messi. Les joueurs, bien que pris en charge, ont malheureusement été tués sur le coup par le terroriste. Les deux clubs ont perdu des milliards d'euros en perdant leurs joueurs phares. Le 23 mars, une nouvelle attaque endeuille le monde du football, lors d'un match entre Paris et le Real de Madrid. À la 54e minute, des fumigènes ont atterri sur le terrain. Quand la fumée s'est dissipée, on a retrouvé les corps de Neymar et Benzema inertes. Les vidéos de surveillance ont été analysées, mais n'apportent aucune information sur l'identité du tueur. La police poursuit son enquête à la recherche de ce tueur de talent.
Les terroristes s'en prennent aussi aux basketteurs du CSP. Romain était sur place.
Le 26 février 2019, pendant le match contre Digne, un gang armé et cagoulé a attaqué le Limoges CSP. L'attaque a causé 52 morts et 14 blessés, dont 3 grièvement. Le commissaire de police, Albert Paté, est venu sur la scène du crime, accompagné de ses hommes et de toute une troupe de spécialistes du crime terroriste appelés en renfort. Des empreintes ont été retrouvées sur le corps des victimes et sur les armes abandonnées sur place. Les études ont prouvé que Trace appartenait à un gang qui s'appelait le gang des bras cassés. Ce sont de dangereux criminels qui opèrent en groupe et qui se sont spécialisés dans le vol d'appareils technologiques et bijoux. Le gang dont le foyer se trouve à Beaubreuil touche aussi à la drogue. Albert Pathé a dit que ce sont de criminels, mais ils tuent pour voler. Ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer. Et il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient commis un tel crime. En ce moment, les policiers continuent à chercher le gang. Affaire à suivre.
Passons maintenant à un autre thème de société. L'écologie. On s'inquiète à La Rochelle, comme nous le rapporte Jeanne.
Un navire, appelé l'Erika 2, a fait escale à La Rochelle une semaine complète à cause d'une avarie. Sa coque aurait été endommagée après avoir heurté des baleines issues d'une espèce très rare. Ce grand pétrolier de l'entreprise Total aurait à son bord le président directeur général ainsi que 50 ouvriers de la compagnie pétrolière. Ce navire a été construit 2 mois après le naufrage de l'Erika, qui a provoqué l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. La pollution due à ce naufrage a touché les côtes bretonnes et vendéennes jusqu'à l'île de Ré, provoquant de nombreux dégâts sur la flore et la faune. Mais l'arrivée de ce pétrolier ne plaît pas à tout le monde. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est venu pour faire la même chose qu'il y a 20 ans. Pour d'autres, il s'agit d'une véritable provocation. Et je suis d'accord. Sur les réseaux sociaux, des idées circulent, comme le boycott des produits Total. Nombreux sont aussi ceux qui s'étonnent de cette venue et du nom donné à ce bateau. Des journalistes nous informent que dans le centre-ville de La Rochelle, une grande manifestation contre Total et la venue du pétrolier est d'ores et déjà prévue demain.
La mer est un espace fragile qui nous cache encore de nombreux secrets. C'est l'histoire extraordinaire de Mathilde.
En effet, le dimanche 3 mars 2019, des plongeurs marseillais ont fait une découverte tout à fait exceptionnelle. Depuis plusieurs années, on a mis en place des dispositifs pour la protection de la faune et de la flore méditerranéenne. Alors que Michael Garnet et Franck Londin effectuaient une plongée de surveillance pour observer les poissons et les coraux, les deux plongeurs ont remarqué quelque chose d'anormal au fond de l'eau. Intrigués, ils se sont approchés et ont réalisé qu'il s'agissait d'une espèce inconnue. Cet animal avait la taille impressionnante d'une baleine, mais il y avait la morphologie d'un dauphin. Les deux hommes ont décidé d'appeler les membres de la Cité de la Mer pour que la baleine soit examinée par des spécialistes. Après analyse, les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'un mélange entre une baleine et un dauphin. Ils ont appelé ce drôle de spécimen le beaufin. Le beaufin, quel drôle de nom! Ce spécimen mesure 10 mètres de long, pèse 1200 kg et il est bleu-gris. Un des spécialistes a annoncé que cette espèce de mammifère était très rare. Les deux plongeurs ont décidé de faire don de leur découverte à l'aquarium de Marseille. Ce nouvel animal nous a fait comprendre qu'il était important de protéger nos mers et océans si on ne veut pas voir disparaître des espèces rares.
Dire que nos océans sont en danger, le mot est faible. Enquête de Louis.
Suite à la COP24, le ministre français de l'écologie a déclaré que tous les déchets nucléaires mondiaux seront dorénavant déversés dans les océans. En effet, les espèces qui vivent seraient parfaitement sensibles aux radiations. Il semblerait bien que les gouvernements américains, français, russes et chinois aient déjà commencé à déterrer leurs déchets nucléaires. Cette décision ne fait cependant pas l'unanimité. En effet, l'actuel responsable de l'ONG Greenpeace a déclaré ce matin que ce serait une catastrophe écologique monumentale pour l'humanité et que cela détruirait la faune et la flore marine. Il a cependant été immédiatement contredit par le président américain qui a tweeté que cela n'influencerait en rien la biodiversité marine et que le gouvernement américain a déjà fait des recherches à ce sujet et qu'il peut fournir les preuves et que ce serait même un formidable moyen de lutter contre la faim dans le monde. En effet, les chercheurs du Centre national de recherche américain ont travaillé d'arrache-pied sur ce sujet depuis plusieurs années. Les résultats semblent formels. Will Taylor, directeur de recherche, a déclaré que grâce aux déchets nucléaires, les poissons deviendraient beaucoup plus gros rapidement. Ils sont donc plus résistants sous l'influence des radiations. Ils deviennent donc bien plus rentables pour l'industrie de la pêche. Toujours, selon Will Taylor, le déversement des déchets nucléaires dans les océans débuterait d'ici 2019-2020. Les océans où les premiers déchets seraient déversés sont déjà connus, l'océan Antarctique et l'océan Atlantique. Jim Nelson, militant pacifiste à la tête de l'organisation Sea Shepherd, berger de la mer, annonce par un communiqué de presse qu'il est résolu à rentrer en résistance pour protéger les océans de ce qu'il qualifie de décision criminelle, allant à l'encontre des intérêts de l'humanité.
Passons maintenant à l'éducation. La technologie s'invite à l'école. Quentin a observé en situation.
Eh oui, Pauline, le cocktail smartphone-réseaux sociaux façonne les ados d'aujourd'hui. On constate qu'ils sont plus intelligents, les nouvelles technologies favorisant leur réussite scolaire. En effet, l'utilisation abusive des nouvelles technologies favorise, selon les spécialistes, l'intégration sociale des élèves. Or, un élève reconnu par ses camarades se sent à l'aise en cours et travaille donc plus facilement. Je me suis rendu dans le collège de Bénévent-l'Abbaye. J'y ai rencontré l'enseignante Marie-Josée qui nous confie que, en cours, il n'y a pas un bruit. Les élèves travaillent avec sérieux grâce à leur téléphone. Il a été constaté que ces élèves réussissent leurs études supérieures avec de très bons résultats.
Donc les téléphones à l'école, c'est oui. Les jeux vidéo, c'est non. Mathis, vous explique.
Eh oui, les élèves de l'école Martinado à Niort n'auront plus le droit d'apporter leurs écrans à l'école, car certains jeux peuvent heurter la sensibilité des enfants. Aussi, ils peuvent être brusques envers leurs camarades et leurs professeurs. Il faut enlever les écrans aux enfants, car ils sont tous addicts. Les parents d'élèves ne sont pas d'accord avec cette interdiction, car pour eux, c'est partout et tout le temps. Les parents d'élèves organiseront une manifestation prochainement, dans les jours à venir. Ils citeront une école libre et pour des enfants libres. Vous pouvez les soutenir en faisant un don sur leur canote Litch pour leur ajouter de nouveaux jeux vidéo.
Éducation toujours, à partir d'aujourd'hui, on prône le sexisme. Maillot de foot et jupe ont un sexe, c'est assuré. Camille nous raconte.
Les assistantes maternelles ne s'interrogent plus sur la question des stéréotypes. Leur association a décidé d'organiser une formation pour apprendre comment éduquer les enfants selon leur sexe. D'après les spécialistes de l'enfance, à partir d'un certain âge, les enfants comprennent qu'ils doivent suivre la norme pour ne pas se faire remarquer et être laissés de côté. Maintenant, les filles ne peuvent pas jouer comme les garçons et inversement. Les enfants doivent être chacun de leur côté et s'amuser selon la norme. Les garçons aux voitures et les filles aux poupées. Désormais, c'est pour ça que nous leur apprendrons au plus tôt que le bleu c'est seulement pour les garçons et que le rose c'est seulement pour les filles. Aujourd'hui, on en arrive même à séparer les filles des garçons pour revenir au modèle d'éducation des années 60. À Paris, le Premier ministre a mis en place des écoles filles et des écoles garçons. Cette décision a été prise il y a 2 jours sous l'autorisation du président. À présent, toutes les écoles mixtes seront fermées et tous les enfants seront transférés dans une école adaptée à leur sexe pour plus de réussite.
Un goûter de Noël gâché pour nos élèves de Marsac. Ce triste fait divers nous est raconté par Mathilde.
C'était mardi 15 décembre dernier à l'école de Marsac. La fin décembre rime avec son traditionnel spectacle de Noël pour les classes de maternelle et de primaire. Depuis des semaines, les maîtresses font tout leur possible avant l'arrivée du Père Noël. Le jour du spectacle arrive et une répétition de dernière minute s'impose à la salle des fêtes de Bénévent-l'Abbaye puisque la salle des fêtes de Marsac est fermée pour travaux. Comme convenu, le spectacle se déroule parfaitement bien. Les élèves sont contents. Le Père Noël a alors rendu visite aux enfants et il leur a offert des cadeaux pour jouer dans la cour. À la fin des festivités, les élèves attendent le bus pour rentrer tous ensemble à l'école et récupérer leurs affaires. Sur le chemin du retour, un camion chargé de bois percute de plein fouet le car. Dès l'arrivée des pompiers, ils constatent qu'un élève est décédé et d'autres gravement blessés. Leurs parents arrivent inquiets et tous sous le choc. Les blessés sont pris en charge au CHU de Limoges et une cellule psychologique pour soutenir les parents, les enfants et les enseignantes est d'ores et déjà ouverte.
L'éducation nationale fait encore scandale. On laisse Maëna nous expliquer.
Le collège Benjamin Bord accueille un nouveau professeur de biodiversité, M. Benoît Sautour. Il est chercheur spécialisé dans la biodiversité marine et aussi professeur. Cela fait 20 ans qu'il donne des cours de SVT et qu'il change souvent d'établissement. Le 26 février dernier, après son arrivée, à l'heure du repas, 2 élèves ont disparu. Le plus troublant, c'est que le professeur était lui aussi introuvable, alors qu'il déjeune tous les jours à la cantine. Une semaine plus tard, les parents ont reçu une demande de rançon. Le ravisseur demandait 2000 euros en liquide à lui remettre au café Café Caf, rue Sainte-Catherine, le 2 mars à 14h30. Tout de suite, la police et les parents établirent une stratégie plutôt maligne de mon point de vue. Et sans surprise pour le commissaire Jeff Martin, c'est le professeur de SVT qui était au rendez-vous. Aussitôt, il est arrêté par les hommes de Jeff Martin et il passe aux aveux. Il était bien le kidnappeur des fillettes qui ont été retrouvées saines et sauves. Elles avaient les genoux écorchés, les vêtements déchirés et des bleus partout sur le corps. Le professeur était atteint d'une maladie mentale. À présent, les deux jeunes filles vivent en Espagne et ont oublié leur mauvaise aventure.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Fake Radio, la radio 100% vraie,
mais pas trop.
Au revoir.